Bonjour chers frères et sœurs, nous allons faire une lecture dans Philippiens chapitre 2 verset 15. On va lire déjà le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Jésus, je te remercie pour cette parole et te prie de nous aider à nous conformer à ce que tu veux. Je te rends grâce pour cela, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Alors, nous avons la responsabilité d'être comme des lumières dans le monde. Nous avons la responsabilité de faire connaître les vérités de l'Évangile qui a été rétabli. Vous savez que depuis la Réforme, beaucoup de choses ont été restaurés, maintenant rétablis. Nous avons reçu l'ordre de nous dresser comme des phares, envoyant la lumière à un monde qui est de plus en plus obscur. Il faut bien le dire, c'est pas difficile à voir, c'est comme ça. Alors on a le droit, on a le devoir aussi de maintenir notre lumière allumée et vive. Frères et sœurs, pour être la lumière qui éclaire aujourd'hui, nous devons croire ce que Dieu dit aujourd'hui. Dans cet âge, en ce moment. Il ne dit pas la même chose dans tous les âges. Et nous devons acquérir la foi nécessaire pour pouvoir survivre spirituellement et pour pouvoir projeter notre lumière afin que les autres la voient. C'est notre devoir. Nous devons nourrir notre témoignage pour acquérir et garder la foi dont nous avons besoin de nos jours. Et pour cela, nous devons lire, nous devons étudier les Saintes Écritures, prier fréquemment, régulièrement. Je crois que sans ces deux pratiques essentielles, les influences de l'extérieur et les réalités parfois difficiles de la vie peuvent nous affaiblir, voire éteindre notre lumière. Je voudrais vous faire une lecture dans un livre que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le livre de Néphi. C'est dans le livre de Mormon. Alors, je ne suis pas mormon, mais je lis beaucoup de choses et ce que je trouve bon, ben, je le partage avec vous. Donc, dans le livre de Mormon, il y a un prophète qui s'appelle Néphi. Et dans 3 Néphi, au chapitre 18, versets 24-25, voilà ce qui est écrit. Élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez. Ce que vous m'avez vu faire. Voici, vous voyez que j'ai prié, et vous en avez tous été témoins. Et vous voyez que j'ai commandé qu'aucun de vous ne s'en aille, mais j'ai plutôt commandé que vous veniez à moi, afin de toucher et de voir. Ainsi agirez-vous envers le monde, et quiconque enfreint ce commandement se laisse conduire en tentation. C'est donc la parole du Seigneur, c'est le Seigneur qui dit ça, et vous voyez, Jésus est la lumière que nous élevons. Nous élevons pas notre lumière, c'est pas une compréhension intellectuelle. Non, c'est Jésus que nous élevons. Et comme il dit là, ce que vous m'avez vu faire, qu'est-ce que ça signifie pratiquement? Ce que nous avons vu Jésus faire, nous devons le faire. Il a dit, mes disciples, vous ferez les mêmes choses que moi. Il a même dit des plus grandes. On en est loin, mais Jésus priait. Et nous avons à le faire. Il commande que personne s'en aille, mais plutôt que tous viennent à lui, et c'est ainsi que nous devons agir avec le monde. On ne chasse personne. Nous faisons ce que Jésus dit que nous devons faire. Et il a dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Et il dit ça, et puis il s'en va et se cache loin d'eux. Et vous allez, pourquoi, vous allez lire pourquoi il se cache, c'est dans Jean 12, 36, 40. Il faut aussi de temps en temps qu'on sache se cacher. Nous devons être la lumière qui brille dans les ténèbres, car voici le Seigneur Jésus-Christ vous dit, « Je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est moi qui suis venu chez les miens, et les miens ne m'ont pas reçu. Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas. En vérité, je vous le dis, si vous désirez un témoignage de plus, reportez-vous au moment où vous avez crié à moi dans votre cœur afin de connaître la vérité de Christ. » Voilà, vous voyez, Votre relation avec Jésus-Christ n'a pas commencé par une doctrine, ça a commencé par une rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Et si vous avez besoin d'un témoignage de plus, eh bien, regardez, souvenez-vous d'où vous venez et comment Jésus vous a conduit. Et ainsi, vous dit le Seigneur, n'ai-je pas apaisé votre esprit à ce sujet, à ce moment-là? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui que Dieu a placé, que Dieu t'a placé ici? Vous voyez, si vous avez un témoignage fort du Sauveur et de son évangile rétabli, vous avez des occasions illimitées de briller. Parce que vous savez des choses que le monde ne sait pas. Parce que vous connaissez la personne que le monde ne connaît pas. Ces occasions, elles sont tout autour de vous, chaque jour, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. En suivant l'exemple du Sauveur, vous aurez toujours l'occasion d'être une lumière dans la vie des personnes qui vous entourent, qu'elles soient membres de votre famille, qu'elles soient des camarades de classe, des collègues de travail, de simples connaissances, des parfaits inconnus aussi. Quand vous serez une lumière pour le monde, les gens autour de vous ressentiront un esprit spécial, parce que vous êtes spéciaux, vous êtes différents. Peut-être que vous n'êtes pas différent dans votre façon de vous habiller, mais vous êtes différent en esprit, et si vous partagez, si vous communiquez, les gens vont s'en rendre compte. Il faut aussi savoir que les gens regardent à l'apparence, alors il y a une apparence quand même qui soit attirante, qui les intrigue un peu, qui soyez attirant, hein, puisqu'ils regardent à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais les gens regardent à l'apparence. Sachant cela, ben, profitez-en, soyez un peu différents. Si ces gens à qui vous parlez, si ces gens devant lesquels vous êtes des élus, ils sentiront en vous l'esprit qui les pousse à vouloir vous fréquenter et à suivre votre exemple. Si ce sont des fils du Caïn, ben, ils vous rejetteront comme ils ont rejeté Jésus. Ça, c'est... Mais il faut que vous défendiez fermement la vérité et la justice. Contribuez à ouvrir le regard des autres sur la compréhension des choses du royaume de Dieu. C'est notre mandat. Nous avons été envoyés pour ça. Et Jésus-Christ, c'est notre exemple. Il supprime l'ignorance en mettant la lumière. Vous voyez, Jésus-Christ est notre exemple suprême de pouvoir, du pouvoir de l'humilité, du pouvoir de la soumission. C'est comme ça qu'il a agi. En effet, sa soumission à la volonté de son Père, il a renoncé à sa propre volonté. Ça veut bien dire qu'il avait une volonté à lui qui était peut-être des fois différente de celle de son Père, mais il s'est soumis à la volonté de son Père. Il savait que ça allait lui coûter quelque chose, mais il a préféré faire la volonté de son Père plutôt que la sienne, et puis vivre dans son petit confort à lui. Alors, sa soumission, la soumission de sa volonté à la volonté de son Père, c'est à l'origine du plus grand événement de toute l'histoire du monde. Et nous sommes maintenant chargés nous-mêmes de refléter cette lumière, d'être cette lumière qui peut apporter quelque chose dans le monde. Et ces paroles les plus sacrées, je crois que c'était quand il a dit « Que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse ». On trouve ça dans Luc 22, 48. Les gens veulent faire leur volonté. Bon, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Ils perdent. C'est dommage. En tant que disciples, c'est dommage pour eux, puis c'est dommage pour tous ceux auprès desquels ils pourraient donner un témoignage. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous nous efforçons de ressembler à notre Maître, à Jésus-Christ. Alors, il faut s'y efforcer. Il était doux et humble de cœur. Moi, ce n'est pas tellement ma nature d'être doux, mais je m'efforce à cela. Et sa douceur, ce n'était pas de la faiblesse non plus. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que c'était de la faiblesse. Pas du tout, c'était pas une mollesse. Hein. Et mes frères et sœurs, c'est le fait de nous soumettre humblement au Père qui nous apporte le pouvoir spirituel, le pouvoir d'affronter les épreuves de la vie, et le pouvoir de l'espérance, le pouvoir d'un cœur qui vibre d'amour pour Jésus-Christ. Et nous pouvons montrer la lumière de l'humilité en acceptant les conseils, les réprimandes, et aussi en rendant des services désintéressés. Il y a mille façons, en priant avec des intentions réelles, bonnes, en parlant de l'amour de Jésus chaque jour à au moins une personne, hein, nous sommes des témoins, en recherchant nos ancêtres afin de se faire baptiser à leur place. Ça demande du travail, ça demande un effort pour renoncer à notre train-train, pour pouvoir nous consacrer à quelque chose qui a une valeur éternelle. Les orgueilleux, ils craignent plus le jugement de Dieu. Ils craignent plus ce que les gens vont penser que les jugements de Dieu. Et on est dans un monde comme ça. Et vous savez, quand vous êtes devenu membre du corps de Christ, là où Dieu vous avait conduit, ben vous avez fait une alliance, l'alliance de vous souvenir toujours de lui, et vous avez fait alliance de prendre son nom sur vous, sur votre main, sur votre front, hein, ça veut dire que sur vos actes et sur vos pensées, hein, vos actions, vos pensées, vous avez pris sa marque, son nom, et c'est le péché qui nous empêche de respecter cette alliance. C'est toujours le péché, c'est rien d'autre. Et le plus grand péché, juste avant celui qui mène à la mort, ben c'est le péché d'orgueil. La plupart des gens pensent que l'orgueil est synonyme d'égoïsme, de vanité, de vantardise, d'arrogance, de morgue. Et bien sûr que ce sont des éléments du péché d'orgueil, mais ces éléments-là ne sont pas l'essentiel. Le trait essentiel de l'orgueil, c'est l'inimitié à l'égard de Dieu et à l'égard de nos semblables. C'est ça l'orgueil véritablement, l'inimitié. Or, nous avons de l'hostilité envers Dieu quand nous voulons faire notre volonté et non la sienne. Les orgueilleux ne peuvent pas accepter que l'autorité de Dieu dirige leur vie. Les orgueilleux voudraient que Dieu soit d'accord avec eux et ils arrivent à justifier leurs œuvres avec une pseudo-spiritualité, mais ils ne veulent pas rectifier leurs opinions pour être en accord avec lui. Vous voyez, c'est un combat. Quelques-uns des dissidents, quelqu'un parle des dissidents, disait lundi passé à un Michou que c'est dommage que ça se finisse comme ça chez nous. Mais il n'y a rien de fini. Qu'est-ce qui est fini? Il n'y a rien qui est fini. Rien n'est fini pour nous qui faisons la volonté de Dieu. On s'y engageait, puis on continue. Ça finit pour eux, mais ça finit pas pour nous. Ça finit pour eux qui veulent faire leur volonté. Et ils en ont marre de se consacrer, ils se sentent gavés, tout ça. Ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité déléguée de Dieu, ils se croient supérieurs. Bon, ben voilà, c'est leur vie. Et ça crée de l'inimitié dans leur cœur à l'égard de leurs frères et sœurs. Et on ne peut pas aimer Dieu plus qu'on aime nos frères et sœurs. Alors ça fait réfléchir quand même. Et ceux qui restent fidèles sont restés fidèles malgré bien les difficultés passées. Mais ils ne veulent pas savoir ça, ça ne les intéresse pas. Ils voient leurs difficultés à eux et puis c'est tout. Alors nous restons fidèles à nos engagements, à nos alliances et Dieu vous récompensera pour cela. L'orgueil, il entrave la progression. L'orgueil, ça nuit aux relations. Ça limite notre service. Il n'y a qu'un remède à l'orgueil, c'est l'humilité, c'est la soumission. Voilà, c'est tout. L'humilité répond à la volonté de Dieu, à la crainte de ses jugements et aux besoins des gens qui sont autour de nous. Ils vont retourner dans la vie qu'ils avaient avant, avec un peu plus de connaissances au sujet des choses de Dieu, mais ils ne sont plus en train de faire la volonté de Dieu. Ils ne sont plus en train de faire ce à quoi ils s'étaient engagés. Et pour terminer, je vais vous raconter une histoire qui va vous expliquer bien des choses si vous y réfléchissez. C'est un puissant sorcier qui désirait détruire un royaume. Alors, il a versé un poison magique dans le puits où venaient boire tous les habitants de ce royaume, et quiconque allait boire de cette eau allait devenir fou. Alors le lendemain matin, toute la population est venue, toute la population a bu et sont tous devenus fous, sauf le roi, parce que le roi il possédait un puits réservé à son usage personnel, à sa famille et à quelques-uns de ses très très proches de son cœur. Alors le sorcier n'avait pas pu mettre de son poison dans ce puits, dans le puits du roi, donc le roi était inquiet parce que quand il a vu la folie dans son peuple, il a voulu faire contrôler la population et il a pris une série de mesures de sécurité, il a pris des mesures de santé publique Mais les policiers et les inspecteurs, ceux qui avaient des responsabilités, ils avaient eux aussi bu de l'eau empoisonnée. Et alors, ils ont commencé à trouver absurdes les décisions du roi. Alors ils ont décidé de ne pas respecter les mesures prises par le roi. Et quand les habitants de ce royaume ont pris connaissance des décrets, ben, ils ont été convaincus que le roi était devenu fou. C'est comme ça. Hein. Et ils se sont rendus au palais, et ils ont tout fait pour décourager le roi afin que le roi abdique. Et, désespéré, le souverain s'apprêtait à quitter le trône, mais la reine l'en a empêché. La reine, elle a dit au roi, ben, « Allons jusqu'au puits et buvons aussi, ainsi nous serons comme eux, nous serons fous comme eux. » Et c'est ainsi que ça a été fait. Le roi et la reine, leur famille et leurs fidèles amis, ils ont tous bu l'eau de la folie. Et ils se mirent aussitôt à tenir des propos insensés comme les autres. Hein. Ils se sont mis à leur niveau. Et alors, au même moment, les sujets se sont repentis. Ils ont dit, ah, ben, puisque le roi fait preuve d'une si grande sagesse, pourquoi ne pas le laisser régner sur nous? Vous voyez l'histoire. Et le calme est revenu dans le royaume, même si les habitants se comportaient comme des fous. Et le roi a pu gouverner jusqu'à la fin de ses jours, et voilà. Ben, mes frères et sœurs, je ne boirai pas l'eau qui rend fou. J'abdique, je pars. C'est là la sagesse, c'est là l'humilité, et Dieu le sait. Ainsi que mon épouse, ma famille et mes amis les plus proches, eh bien, nous partons, nous laissons ce royaume et nous allons créer un plus beau avec des sujets qui seront des lumières. À l'exemple de Jésus, sachant renoncer quand il faut, être humble, hein, sachant aussi se cacher quand il faut, comme Jésus aussi se cacher quand il fallait, montrer les lumières afin que les élus puissent la reconnaître. Et nous mettrons donc en pratique un texte qui se trouve dans le Livre de Mormon aussi, dans Doctrine et Alliance 38, 41, 42. Que votre prédication soit la voie d'avertissement, chacun à son voisin, avec douceur et humilité. Sortez de parmi les méchants, sauvez-vous. Soyez purs, vous qui partez, vous qui portez, pardon, les vases du Seigneur. J'ai dit Amen. Voilà, je trouve que c'est un très beau texte, rempli de sagesse. Et voilà pourquoi je voulais vous le donner ce soir. C'est quelque chose qui est important pour nous, de savoir que nous ne renions rien du tout de ce que nous avons vécu. Il y a une chanson qui dit « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Je regrette qu'une chose, c'est les péchés que j'ai faits. Et j'ai demandé pardon, je me suis humilié, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais ça n'a rien changé. La vérité, c'est pas, ils ne voulaient pas que je demande pardon. Et ils voulaient faire leur propre volonté. Ben, qu'ils la fassent, que Dieu les bénisse et nous, eh bien, on continuera à être des lumières et qu'on continuera à être ferme dans ce que Dieu nous a donné. Et nous irons de plus en plus loin dans le rétablissement de toutes choses. Et que Dieu nous vienne en aide, nous en aurons besoin parce que les temps sont de plus en plus difficiles. Et il y a partout des problèmes, dans toutes les églises, il y a des problèmes. Et même au milieu d'eux, là, ils sont en train de se chicaner. Ils reproduisent chez eux, dans leur petit groupe, ce qu'ils ont produit chez nous, c'est-à-dire médisance et tout. Ça nous revient, on l'entend, ils nous le disent. Ils viennent nous le raconter. Et voilà, ils ne changeront pas, ils seront toujours pareils. Et voilà, donc que Dieu les bénisse si c'est possible. Et puis nous, ben, en tout cas, on continue fermement, il ne faut pas se décourager. Et puis quand on voit toutes les choses que Dieu fait pour nous et comment il nous guide, comment il nous conduit, eh bien, c'est bien. Mais ça peut être erroné, ça peut être une tromperie. Ce qui n'est pas une tromperie, c'est qu'on est fidèle à l'appel qu'on a reçu au départ. On ne renie rien de ce qu'on a reçu au départ. Et on continue à le faire et en rajoutant des choses que le Seigneur veut que nous rajoutions, mais qu'il ne contredise pas ce que nous avons reçu au départ. Ça nous donne une grande assurance. Puisqu'il nous donne aussi une assurance, c'est que nous aimons les frères. On ne souhaite pas leur mort. Que Dieu les bénisse si c'est possible. Voilà, que Dieu vous garde dans sa paix. Et dimanche, je vous apporterai encore un autre message. Voilà, Amen. Au revoir mes frères et sœurs.